Nous avons vu la semaine dernière que dans nos villes arrive le cas échéant que des géants se dressent devant nous. Et lorsqu'on voit ces géants, on peut faire le constat des fois que c'est des géants qu'on a nous-mêmes laissés se mettre en place devant nous. Des fois parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout dans notre vie chrétienne. À un moment donné, on a eu un coup de flemme, on n'a pas eu envie, on n'a pas été motivé d'aller jusqu'au bout. Et ces géants ont pris de la place et aujourd'hui nous font trembler. On a vu que ça peut arriver, c'est arrivé dans ma vie, c'est arrivé dans la vie des uns et des autres. Et la semaine dernière, nous avons prié pour dire que voilà, c'était le temps maintenant où le géant allait tomber. Béni le Seigneur du fait que beaucoup se sont levés, j'étais surpris d'ailleurs pour tout vous dire, en termes d'organisation, je découvre un peu l'église et je me disais, bon, s'il y a 5, 6 personnes, 10 personnes qui se lèvent, ça sera chouette. Et au final, il y avait presque 3 quarts de l'église qui s'est levée. Du coup, ce qui a pris du temps, et donc je présente mes excuses à tous ceux qui ont dû partir, qui se sont sentis phagocytés, comme on dit, et qui n'ont pas pu partir, qu'on se le dise entre nous, vous partez quand vous voulez, il n'y a pas de souci, même si ça dure un peu plus, que chacun se sente libre, je sais que les uns les autres peuvent avoir des obligations, donc si vous devez rentrer à la maison, je le prendrai pas mal, d'ailleurs je ne me rendrai même pas compte, mais partez, si à 14h on n'a pas fini, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc j'étais heureux de voir les uns et les autres se lever d'une certaine manière pour dire, bon ben maintenant ça suffit, ça fait trop de temps que je suis arrêté par ce géant, maintenant je me lève, alors je ne sais pas comment je vais faire pour aller plus loin, mais en tout cas je déclare, et d'une manière symbolique aussi prophétique, que ces gens vont commencer à tomber dans ma vie. Donc nous étions 3/4 à nous lever. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous lever. Donc, nous sommes toujours attentifs à ce texte qu'on trouve dans le premier livre de Samuel. Je fais attention pour bien articuler. Ça va, là? Ouais. Bon. Parce que des fois, je parle vite. Et puis, si je mets le micro devant, la sœur, elle voit pas mes lèvres. Alors, je fais l'effort. Voilà. Et si jamais tu vois que hop, tu me fais un signe et puis j'essaie de bien parler. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans le premier livre de Samuel. Au chapitre 17, est-ce que nous avons vu la dernière fois, l'histoire nous raconte qu'il y a le peuple des Philistins, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, les Israélites qui sont en confrontation et que plus rien n'avance pendant un moment. Et puis il y a un gros gaillard qui s'appelle Goliath, qui a fait de la musculation, qui a pris des amphétamines, etc. Et qui fait peur à tout le monde et qui va défier pendant 40 jours le peuple de Dieu en disant, voilà, est-ce qu'il y en a un qui va venir m'affronter? S'il y en a juste un qui vient m'affronter et qui a la victoire, je laisse tout le monde tranquille. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucun qui se lève, en tout cas pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il va haranguer tout le monde, il va les stresser, il va certainement les insulter. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que dans les textes bibliques, on n'a pas souvent les commentaires et les surcommentaires et ce qui se passe dans la tête des gens. Mais je suis sûr qu'il y avait plein de noms d'oiseaux qui devaient voler d'un côté comme de l'autre. En tout cas, pendant 40 jours, d'une certaine manière, le peuple d'Israël est humilié. Et eux qui peut-être se croyaient forts, d'un seul coup, sont face à eux-mêmes dans leur incapacité de faire quoi que ce soit. Quand les géants sont devant nous, on a deux possibilités. Et celle qu'ils ont choisie dans un premier temps et que peut-être nous aussi, nous avons choisi de vivre malgré nous, peut-être, c'est de trembler et de ne pas aller plus loin. J'ai remarqué dans ma vie que toutes les choses qui m'ont fait peur à un moment donné, vous avez eu des choses qui vous ont fait peur dans votre vie, qui vous ont bloqué, j'ai remarqué que mon premier réflexe, des fois, c'est de ne pas regarder ces choses-là, de me détourner de ces choses-là et de ne pas les affronter. Et l'expérience, parce que j'ai un petit peu d'expérience maintenant à 44 ans, pas autant que certains, mais la vie m'a montré que ce que je ne choisis pas d'affronter, et bien tôt ou tard, non seulement ça va me terroriser, mais en plus ça va être encore plus grand et encore plus difficile. C'est-à-dire que si je mets dans un coin de ma tête, ah non, ça me fait trop peur, je ne vais pas le régler, c'est mort, ça viendra toujours te pourrir la vie. Il y a des gens qui disent, moi je vais voyager, je vais changer de région même, face à tel problème, face à tel géant, et vous savez quoi, ça ne règle jamais rien. Ça ne règle jamais rien. Tout ce que je ne choisis pas d'affronter, tôt ou tard, viendra me défier. Alors le peuple d'Israël, dans un premier temps, pendant 40 jours, va trembler, va se dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont dans l'expectative de quelque chose qui pourrait se passer, mais ils ne savaient pas quoi. Jusqu'à ce qu'au bout de 40 jours, un jeune homme qui s'appelle David. David, c'est, la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez cette expression, l'homme selon le cœur de Dieu? Lorsque j'étais plus jeune, j'avais peine à saisir cette pensée de l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire précisément? Et j'ai quelques explications maintenant. On pourrait dire que David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'expression veut dire que David était toujours attentif à ce que Dieu voulait faire. Un peu à l'instar d'un petit garçon, quand je vais avec mon nono, mon Noam qui est à la garderie là, et qui est encore petit, c'était le cas pour les quatre, mais maintenant ils sont grands, donc maintenant c'est plus le cas, mais quand ils étaient petits, dès que je faisais quelque chose, on va se promener, et tu fais quoi là papa? Et pourquoi tu fais ça là? Et tu vas aller dans telle direction, et tu vas faire telle et telle chose. Il se souciait de toujours savoir ce que Dieu voulait faire ou allait faire. C'est ce que veut dire, d'une certaine manière, l'homme selon le cœur de Dieu. David était soucieux de ce que Dieu voulait faire. Et voilà que ce David, au bout de 40 jours, on peut lire ça ensemble, dans le premier livre de Samuel, à partir du verset 17, verset 31, il vient voir le peuple qui est transi de peur, il va voir les responsables, il va voir le roi, et puis il leur dit, ben moi je vais m'occuper de ce Goliath, verset 31. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Ça, c'est l'histoire. Pendant 40 jours, le peuple d'Israël tremble, et j'aimerais juste aussi souligner que le roi d'Israël tremble. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce que fait le roi d'Israël parmi ses troupes à trembler aussi? Et puis, je me pose la question, si celui que Goliath défie, en disant, est-ce qu'il y en a un qui va venir combattre contre moi? Ben, c'est pas Saül qui est visé, finalement. Et Saül est en train de trembler. Et voilà qu'un gamin, David, s'approche, parle aux soldats en disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Essayez de vous ressaisir, essayez de ne pas trembler, essayez de vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Voilà que ça arrive aux oreilles du roi Saül. Et puis Saül, plutôt que de réagir en disant, mais attends, ce David, il a raison. Et puis finalement, c'est même pas à David d'y aller, c'est à moi d'y aller. Il dit, bon, bah David, vas-y, viens, explique-nous ta théorie. Ah, tu veux faire le malin, tu veux y aller. Et David dit, voilà, moi j'ai quelque chose à cœur. On va arrêter de trembler devant ce géant. C'en est assez maintenant. Nous allons prendre les choses en main avec l'aide de Dieu. Et voici ce que dit Saül. Laisse tomber, tu n'es qu'un gamin. Lui, c'est un homme et en plus, c'est un géant. Tu n'y arriveras pas. Y a-t-il des gens ce matin qui ont entendu ce genre de discours? Tu es bon à rien, mauvais à tout. Tu n'y arriveras pas. Tu es trop jeune. Tu es de telle culture, tu es de tel quartier. Vous savez que des fois, dans certaines villes, moi j'habite à La Roseraie. Vous connaissez La Roseraie? J'ai entendu dire qu'à Angers, c'était un quartier chaud bouillant. Jusqu'ici, tout va bien. En tout cas, la voiture n'a pas flambé pour l'instant. Rassurez-vous, tout va bien. Moi, je trouve que c'est pas si pire que ça, mais finalement, selon l'endroit d'où on vient, on peut être classé, catalogué, dans notre société française, en tout cas, c'est comme ça. Tu viens de tel quartier, ça va être chaud pour toi, ça va être difficile. Lorsque j'étais gamin, j'ai grandi sur la région de Rouen, puis il y a tout un quartier là-bas, pas très fameux non plus, et il y a un gars qui, à un moment donné, a commencé à réfléchir, à se former, etc., et puis il a écrit un bouquin, à un moment donné, qui s'appelle « Le quartier, c'est dans la tête ». Est-ce qu'on choisit de croire de nous, de l'endroit où on vient? Est-ce qu'on choisit de croire ce que disent les autres de nous? Alors la question que je nous pose, c'est face à nos géants ou même en général, qu'est-ce que les gens ont dit de vous que vous avez cru? Saül dit à David, t'es qu'un gamin, t'y arriveras à rien, laisse tomber. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Qu'est-ce que les gens disent de notre église ici? Quel est le discours des gens sur notre église? Quel est le discours des gens, des autorités de la ville, des gens, alors je trouve que le regard des autorités de la ville est plutôt favorable sur la communauté. Je crois que Bernard et les gens de l'église ici ont fait un bon travail pendant beaucoup d'années et c'est plutôt favorable. Mais peut-être des fois on peut être catalogué. Et nous écoutons ça, où des fois on a l'impression d'être marginalisé et nous le croyons et nous n'allons plus loin. Nous n'allons plus nulle part. Je vous ai dit la semaine dernière que moi je me trouvais nul, si vous étiez là. Si quelqu'un entend ça pour la première fois ce matin, vous n'étiez pas là la semaine dernière, trouvez quelqu'un qui était là la semaine dernière et dites-lui, raconte-moi ce qu'il a dit, et comme ça vous vous rendrez compte s'il a écouté ou pas. Voilà. Et si jamais vous avez des doutes sur l'histoire, venez me poser des questions, je vous raconterai. Mais en tout cas, moi je me trouvais nul, pour tout un tas de raisons que j'ai exprimées la dernière fois, Et je suis persuadé que ce qui a contribué à cela, c'est mon éducation. Mes parents, je disais, étaient formidables, ils nous aimaient sans l'ombre d'un doute. Ils avaient beaucoup de lacunes aussi, parce qu'ils avaient grandi comme ils pouvaient aussi, dans un contexte familial, etc. Et on a l'impression que des fois, de génération, ça se répète, et encore, jusqu'à ce que Jésus arrive dans les vies et transforme tout. Mais ma mère, que j'aime toujours, qui est toujours, toujours en vie, avait cette fâcheuse tendance à nous comparer entre mes frères et sœurs et moi. Évidemment, moi, dans la comparaison, je me trouvais toujours... voilà. Donc j'ai fait le choix, moi, pour mes enfants, de ne pas entrer là-dedans. J'essaie de ne pas tomber là-dedans. Chacun est comme il est, et de ne pas les comparer. Et j'entendais toujours ce genre de discours. Ton frère peut faire ça, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Ou toi, tu peux faire ça. Ah oui, oui, Julien, il est bricoleur. Genre, ouais, ouais, il est bricoleur, mais il n'est pas trop... Oui. Mais ton frère... Est... Et j'ai grandi un peu avec ça, des mensonges qui m'ont bloqué, qui m'ont établi dans quelque chose que je n'étais pas. Alors Saül, c'est ce qu'il fait, d'une certaine manière. Mais tais-toi, espèce de gamin. T'es un gamin, arrête avec tes rêves, avec tes illusions. D'une certaine manière, moi je suis sage, moi j'ai compris la vie, et en plus c'est moi le roi ou pas? Alors moi, je vais te dire, reste tranquille, t'es qu'un gamin, lui c'est un homme, c'est un géant, on va rien faire du tout, tu vas te détendre, et il se passera rien. La différence, c'est que lui, David, savait qui il était en Dieu. Tout à l'heure, nous avons pris la scène, et nous avons réfléchi sur tout ce qui pouvait éventuellement nous bloquer pour prendre le repas du Seigneur, toutes ces accusations qui sont là, je ne me sens pas digne, je me sens telle et telle chose, qui sont la plupart du temps des mensonges de l'ennemi, que nous croyons, que nous ruminons, que nous digérons et que nous mettons en application dans nos vies. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger dans ta vie? Souvent des raisonnements comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer le Seigneur le dimanche matin? Pourquoi il y en a qui sont les bras levés et la gestuelle n'a rien à voir avec l'état de mon cœur, bien entendu. Il y en a qui ont les bras levés mais qui dont leur cœur sont assis, et l'inverse est vrai aussi. Mais qu'est-ce qui t'empêche souvent de louer, d'aller plus loin avec le Seigneur? Souvent des raisonnements comme ça. On croit des mensonges qui nous accablent, qui nous tirent vers le bas et qui nous bloquent, qui nous pourrissent la vie. David savait qui il était en Dieu et ça faisait la différence. C'est-à-dire que Saül pouvait dire ce qu'il voulait. Et David, il disait, bah vas-y, cause toujours Beaumerle. Moi, je sais la relation que j'ai avec Dieu, je sais qui il est pour moi, je sais qui je suis pour lui, et je sais ce qu'il a fait dans ma vie et au travers de ma vie. C'est quelque chose de déterminant pour commencer à faire tomber les géants dans nos vies. Moi, je sais qui je suis nul, bon à rien, mauvais à tout, mais je sais qu'en Christ, je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie, dit un verset de la Bible, n'est-ce pas? Ça, c'est la réalité. Et dès que j'oublie ça, je suis perdu, je suis bloqué, je vais nulle part. Je vous ai déjà partagé ça aussi. Je sais la première fois que je suis venu, une des premières fois où je suis venu. Dans ma vie, tout n'a pas toujours été facile, et même depuis que je sers le Seigneur. Et puis, moi, j'ai la fâcheuse tendance à être curieux de tout, et tout me semble important. En tout cas, la moindre cause où il faut agir, j'ai tendance naturellement à y aller. Je suis un peu un Saint Bernard. Vous connaissez Saint Bernard, rien à voir avec toi, Bernard. Saint Bernard, le gros chien qui va sauver les gens avec le tonneau de je ne sais pas quoi sous le... Moi, j'ai un peu cette tendance-là, et dès qu'il y a un truc à faire, il faut le faire. Et surtout, si c'est pour le Seigneur, il faut le faire, bien entendu. Ça fait qu'à un moment donné dans ma vie, en essayant de traîner ma carcasse, de régler mes problèmes personnels, j'étais à fond impliqué dans le service du Seigneur, du moins parce que c'était pour le Seigneur, je disais que c'est le service du Seigneur, et au final peut-être que le seul qui était servi dans tout ça, c'était moi, mon ego, mon besoin d'exister et mon besoin d'être justement un Saint Bernard pour donner du crédit à mon action. Enfin bref, je vous passe tous mes raisonnements, et ça fait qu'à un moment donné, j'étais tellement dans plein de trucs que j'étais complètement épuisé, malgré ma jeunesse, si je peux dire, malgré ma force de caractère, malgré tout ce qui me caractérise, je suis plutôt quelqu'un qui fonce, etc. À un moment donné, je me suis levé un soir, oh, c'est pour voir si vous suiviez. Un soir, je me rappelle, je rentrais à la maison et a commencé à me passer des idées idiotes dans la tête, et puis ça m'a pourri la vie pendant des mois et des mois. C'est-à-dire que moi, le gars énergique qui voulait faire tout un tas de trucs, tellement fatigué moralement, épuisé, etc., que j'avais plus envie de rien, mais de rien du tout. Et c'est juste terrible, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces choses-là, ou si vous vivez peut-être même ces choses-là, c'est tellement terrible de ne plus avoir envie de rien. Il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. Vous êtes comme vide, vous êtes comme une enveloppe sans rien. Il n'y a plus rien qui vous donne envie de presque même de vivre. Et c'était juste terrible parce que j'étais fatigué, parce que je n'avais pas été prudent, parce que j'avais voulu me la raconter tout simplement et je n'étais plus à l'endroit où Dieu me voulait. J'étais trop investi de plein de choses et dans ces moments-là, qui ont été durs à vivre, Dieu m'a boosté comme jamais. Et j'ai rencontré ou re-rencontré Dieu comme jamais. C'était un temps de désert, un géant devant moi qui était nécessaire pour que je puisse aller plus loin. Ça m'a permis d'orienter ma vie autrement. Ça m'a permis de faire du ménage aussi dans ma vie. Mais ce que je vous dis, ce que je voudrais vous dire en disant ça, c'est que pendant ces moments-là où j'avais plus envie de rien, vous savez ce qui me trottait dans la tête ? T'es nul. Tu vas prêcher dimanche, mais t'es nul et tu ne devrais pas prêcher. Pourquoi c'est toi qui vas prêcher ? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre ? Les autres sont tellement meilleurs que toi. Est-ce que tu es légitime pour même prêcher ? Est-ce que tu es même légitime ? Et je mettais tout en doute et j'étais capable de rien. Et tous ces mensonges étaient là, comme un truc qui tournait dans ma tête H24. Je me levais le matin, je dormais très mal et c'est la première chose qui montait dans la tête. T'es qu'un nul, t'es illégitime. Et toutes ces culpabilités qui étaient sur moi. Bien sûr, j'étais fatigué et le médecin que j'ai vu, et je vais très rarement au médecin, et puis le médecin que je suis allé voir, donc le médecin qui était référent, donc que je connaissais à peine, il m'a vu, il m'a dit, mais monsieur Marié, mon nom, il faut que vous vous reposiez. J'ai dit, mais j'aimerais bien me reposer, mais je suis tellement fatigué que je ne dors plus finalement. Et puis je me couche et j'angoisse de ne pas dormir, donc je ne dors pas. Enfin, voilà. Et donc il m'a donné tout un tas de trucs pour que je dorme, etc. Et puis j'ai commencé physiquement à reprendre le dessus sur la fatigue. Mais les pensées étaient toujours là. T'es nul, t'es un bon à rien. Et dans ces moments-là, j'essayais de me changer les idées. Vous savez que maintenant que je fais beaucoup de sport, je suis allé faire du sport, j'ai été courir, j'ai été faire du vélo, parce que souvent quand on fait du sport, on rentre, on est bien. Et je me rappelle, je suis sorti avec des copains, j'avais pas envie de parler, on va faire des vélos, je rentre, et j'étais toujours aussi vite, pas bien. Et je me rappelle que j'ai pris ma douche, j'ai hurlé au Seigneur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va ? Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je me rappellerai, mais comme jamais tellement c'est gravé, d'avoir été inondé vraiment par la présence de Dieu, d'avoir été visité de la présence de Dieu. Et là, j'ai commencé un processus de guérison dans ma vie. Où ces mensonges qui étaient là, c'est comme s'il y a une révélation qui est venue, comme si le Seigneur me dit, mais qui tu es pour moi ? Qui tu es en moi ? Et j'ai commencé à faire cet exercice de réfléchir que Dieu avait fait dans ma vie, que je ne ressentais pas d'ailleurs. Je savais que Dieu m'avait sauvé, mais c'était tellement vide. Je savais que j'étais son enfant et qu'il m'aimait, mais il n'y avait rien qui correspondait dans mon cœur. Jusqu'à un moment donné, je fasse ce travail. Ça a duré des semaines, des mois, etc. Pas de choisir de croire les mensonges qui étaient dans ma tête, mais de choisir de croire qui j'étais en Dieu et ce que déclarait la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, le géant en face de moi a commencé à trembler. Et je me suis rappelé de toutes les bénédictions que le Seigneur m'avait accordées, de toutes les expériences que j'avais vécues dans le passé avec lui, dans tel et dans tel domaine. Et ce qui était délirant, c'est que des choses, pendant ce moment-là, me faisaient trembler, alors que je les maîtrisais depuis des années facilement. Mais des choses même toutes bêtes. Évidemment, peut-être ceux qui sont passés par là ou qui sont dans le milieu médical, vous savez que c'est les symptômes de la dépression, tout simplement. On n'arrive plus à gérer des choses qui sont juste le béaba. Et j'étais tombé là, jusqu'à un moment donné, je réalise qui j'étais en Christ, qui Dieu était pour moi et qui j'étais pour lui. Et que si je pouvais faire quoi que ce soit, c'est simplement parce que lui le faisait en moi et au travers de moi. Et là, j'ai commencé à reprendre les armes et le géant a commencé à trembler. Aujourd'hui, vous me voyez, merci Seigneur, c'était une période de ma vie où maintenant les choses sont rentrées dans l'ordre. Je reste toujours attentif face à mon côté Saint-Bernard qui revient, chasser le naturel, il revient au galop, en faisant le choix simplement de faire ce que Dieu me demande. Saül dit à David, tu n'y arriveras pas, t'es qu'un gamin, lui c'est un adulte, et en plus c'est un géant. Mais David sait qui il était. Moi j'ai pas su à ce moment-là qui j'étais. J'ai oublié l'espace d'un instant, mais aujourd'hui je sais qui je suis. Église d'Angers, sais-tu qui tu es pour cette ville d'Angers ? Est-ce que vous savez qui vous êtes ? Est-ce que nous savons qui nous sommes ? Est-ce que nous connaissons la vision ? Est-ce que nous connaissons le pourquoi de cette église dans la ville d'Angers ? Ou est-ce que nous avons oublié ? Ou est-ce que nous parlons même comme des Saül en disant « Ah, mais nous sommes une petite communauté aujourd'hui, nous sommes très peu nombreux et finalement il n'y aura rien qui se passera. » Et d'autres communautés peut-être ont plus d'expérience, que le Seigneur les bénisse vraiment, on n'est pas en rivalité avec les autres communautés. Mais peut-être que les promesses que Dieu nous a données à un moment donné, peut-être que c'est plus d'actualité. Est-ce que nous savons qui nous sommes en Christ ? Si nous commençons à écouter les mensonges, nous sommes perdus. Je crois de tout mon cœur que Dieu a de grandes choses de prévues, pas parce que c'est à cause de nous, mais parce qu'il est un Dieu, et il est un Dieu de bénédiction, et qui bénit au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Je vous ai partagé, je crois, mais ce verset d'Ésaïe 43, verset 19, vous l'ai cité à plusieurs reprises, j'en ai partagé à Bernard et puis aussi au conseil, où c'est un verset qui me tient depuis très longtemps dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi il y a des versets clés comme ça et ça nous parle. Et puis encore, il n'y a pas longtemps, je disais « Seigneur, j'ai besoin aussi que tu me parles par rapport à tout ce que je vais vivre comme changement dans ma vie personnelle, ce nouveau ministère qui commence, cette nouvelle église, etc. » Et puis lorsqu'il y a les frères qui sont venus là, de la conférence de guérison, j'ai oublié les noms, de... Voilà, c'est bien. Vous savez de qui je parle au moins, voilà. Et quand ils sont venus, ils ont distribué des petits versets au début. Vous étiez là ? Ils ont distribué des petits versets et j'ai pioché un verset. Et devinez, c'était quoi comme verset ? Ésaïe 43, verset 19, qui dit « Ne pensez plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. » Amen. Moi, c'est ce que je crois pour ma venue ici, pas à cause de moi, pas à cause de nous, mais parce que le Seigneur fait toujours des choses nouvelles. Nous pouvons le voir dans l'ensemble de l'écriture biblique. Nous voyons qu'à chaque fois que Dieu fait quelque chose de plus grand pour aller plus loin, il fait quelque chose de nouveau. Que ce soit dans sa venue sur la terre, c'est toujours comme ça. Il fait quelque chose de nouveau, pas à cause de nous. Nous, on n'y est pour rien. C'est juste un temps, une saison. Et moi, je m'accroche à ça. Alors, tous les langages, tous les discours qui nous diraient « Mais ici, c'est mort. Ici, on ne sait pas ce qui se passe. » Et comme si, moi, je crois à ce que dit la parole de Dieu. Ne pensez plus aux choses anciennes qui étaient bien, qui étaient très bien, qui étaient là pour établir les choses, pour pouvoir construire autrement sur les choses nouvelles que Dieu va nous donner de pouvoir vivre. Moi, je crois ça, un peu comme David, parce que je sais aujourd'hui qui je suis en Christ. Je sais qui nous sommes, l'église d'Angers, comme toutes les églises que Jésus bâtit. Nous sommes précieux et Dieu veut nous utiliser, pas à cause de nous, mais à cause de sa grâce. Et Dieu veut encore nous appeler. Le message de Bernard, encore dernièrement, c'était de nous encourager à nous tourner aussi vers les autres, de penser à tous ceux qui sont en train de crever autour de nous, de ne pas avoir une attitude égoïste en se rassemblant gentiment le dimanche matin, en profitant du super temps de louange qu'on a ensemble, de la prédication et de rentrer chez nous sans que ça change rien pour nous et surtout pour les autres qui sont autour. Peut-être que nous avons trop écouté Saül et que nous arrêtons de nous lever, nous arrêtons de trembler, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu dimanche des gens, des frères et des sœurs qui se sont levés, qui ont dit « Maintenant, c'est terminé, je me lève. » Alors nous continuons à nous lever en fonction de ce que nous avons reçu, en fonction de notre relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu ? C'est une question à se poser. Des fois, on fréquente l'Église depuis longtemps, et peut-être la seule révélation qu'on a de Dieu, de Jésus, c'est la révélation des anciens de l'Église ou du pasteur ou de quelques-uns. Et je vis d'une certaine manière par procuration, ma foi, à travers de la vie des autres. Mais je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu. Des fois, on pourrait dire le dimanche matin, on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et on se dit, ouais. Et si on s'arrête, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux identifier en tant que tel ? De quoi m'a-t-il sorti ? De quelle ténèbre m'a-t-il sorti ? De quelle manière il est intervenu dans ma vie ? C'est quelque chose de précieux de se souvenir, de savoir ce que Dieu a fait dans ma vie. Pourquoi ? Parce que ce sont comme des armes que je vais pouvoir brandir face aux géants, que je vais pouvoir brandir quand la difficulté se fera sentir. Et David, c'est ce qu'il fait. Tu peux dire que je suis un gamin, tu peux dire que c'est un géant. Si j'osais ce langage trivial, David dit, mais je m'en fous. Je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux, je sais qui je suis en Dieu. Pourquoi je le sais ? Parce que j'ai des expériences. Moi, je ne parle pas sans expérience, je ne parle pas parce que j'ai rien à dire. Je parle parce que j'ai des choses à dire. Et ce que je dis, non seulement je le crois, mais je l'ai vécu. Et voilà, quand il y avait le lion ou l'ours ou je ne sais pas quoi, c'est qui l'a terrassé ? C'est moi ou c'est pas moi ? Donc je peux t'en parler. Pourquoi je l'ai terrassé ? Parce que je marchais au nom de Dieu, parce que Dieu était avec moi. Et s'il m'a donné la victoire sur ça, il me donnera la victoire sur toi aussi aujourd'hui. Quelles sont les victoires dans ta vie ? Qu'est-ce que tu peux identifier en tant que tel et qui te sert aujourd'hui pour dire, ben voilà, si Dieu a été fidèle à un moment donné dans ma vie, il m'a donné la victoire sur telle et telle chose dans ma vie, pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas le cas ? Et nous, en tant qu'église d'Angers, il y a eu des belles victoires dans le passé. Qui est le plus ancien de l'église ici ce matin ? Daniel, Bernard, Georges, Françoise. Si vous avez des questions, allez les voir, posez-leur des questions. Qu'est-ce qui s'est passé de miraculeux ? Qu'est-ce qui s'est passé d'exceptionnel dans cette communauté ? Peux-tu nous dire de quelle manière le Seigneur est intervenu dans la vie de cette communauté ? Les plus anciens peuvent le dire, les plus jeunes aussi. Pour nos vies personnelles et pour nos vies d'église. Alors j'aimerais juste déclarer que si Dieu a été fidèle dans le passé, il sera aussi dans l'avenir. Le seul qui peut-être pourra manquer de fidélité, c'est moi, ou c'est toi, ou c'est nous. Mais tant que nos yeux sont rivés sur ce que fait Jésus, sur qui nous sommes en lui, pas de problème, j'aimerais dire. Nous sommes plus que victorieux. David se rappelle de ça. Et puis, Et puis il lui dit, mais moi je t'écoute même pas. N'écoutons pas les mensonges de l'ennemi. N'écoutons pas les petites pensées qui arrivent, et ça se passe de telle manière à chaque fois. C'est une pensée qui vient nulle part, qui arrive, qu'on commence à cogiter, qu'on croit et qu'on met en application. C'est toujours le même processus. Quand la pensée négative vient, dis-lui, moi je veux écouter la pensée de Jésus. Moi je veux écouter ce que Dieu me dit au travers de sa parole. Moi je vais aller passer du temps dans la prière. Et dans les moments que j'ai vécu compliqués, dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai découvert que la prière était un refuge. Pas quelque chose de mathématique ou quelque chose que je devais faire. Et peut-être des fois j'avais cette approche-là. Et dans ces moments, j'ai découvert la prière comme un refuge, où je pouvais vraiment aller me mettre à l'abri, auprès de mon Dieu, ou débrancher mon cerveau d'une certaine manière, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de passer du temps avec toi pour que tu me fasses du bien, pour que je reçoive ton conseil. Et quand ces moments-là sont là, Dieu peut parler. Et David avait compris que lui, sa relation, qu'il était en Dieu, était plus important. Alors ce qui est marrant quand on lit ce texte, c'est que Saül, d'une certaine manière, fait semblant d'être convaincu. Et puis au verset 37, verset 38, une fois que Saül a été convaincu, Saül prend, il dit à ses serviteurs, il lui dit, ok David, tu vas y aller, mais tu vas prendre mon armure, tu vas prendre mon épée, tu vas prendre mes affaires, et puis tu vas aller te battre. On pourrait dire plein de choses sur l'attitude de Saül, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une attitude qui est charnelle. Et si j'osais dire quelque chose de Saül, tout en restant bien humble et que Dieu me garde de pouvoir tomber dans ça, mais en tant que leader, Saül, il est bidon, complètement bidon. Il n'a rien compris à la vie, et la preuve en est, lorsque David est en train de le convaincre d'une certaine manière, d'ailleurs est-il convaincu, lui dit « Ok, tu vas y aller, mais à ma manière, avec mon expérience, avec ce qui me caractérise, avec mes armes. » Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce qu'il n'a rien compris, ça je l'ai déjà dit. Je me suis posé la question si dans le doute, il s'est dit bon, il y a du monde, il n'y a pas BFM TV qui est là pour couvrir l'événement. Est-ce que dans le doute, si jamais il sera victorieux, est-ce que, vu que c'est mon armure, vu que c'est mon bouclier, vu que c'est mon épée, mon casque, est-ce que dans le doute, on ne pourrait pas croire que c'est moi qui suis allé finalement, quoi. Et peut-être il s'est dit ça, peut-être qu'il était plus idiot que ça et il ne s'est pas dit tout ça. Il s'est dit bon, ok, tu veux y aller, prends mon armure, ça te protégera un petit peu, etc. Dans nos vies, face à nos géants, face à ce qu'on peut vivre, et peut-être aussi des fois dans nos milieux chrétiens, on essaie de nous donner des méthodes. Il faut que tu fasses comme ça. Moi, j'appelle les yaka faucons. Tu veux y aller ? Vas-y, applique ma méthode. Et puis ma méthode, elle est basée sur mon expérience. D'ailleurs, l'expérience est toujours relative. Des fois, notre expérience est même basée sur l'expérience des autres. Et puis sur l'expérience des autres qui n'avaient pas d'expérience, et ainsi de suite. Et en fait, on fait que des méthodes, que reproduire des méthodes qu'on n'a jamais vraiment vécues. Et puis, on essaie de nous enfermer en disant, tu vas faire de telle manière. Et peut-être des fois, dans nos églises, on va servir le Seigneur. Tu as envie de servir le Seigneur ? Ok. Il faut que tu mettes la panoplie de tel serviteur, de telle chose, tu vas faire comme ça, de telle et de telle manière. Ce que j'aime dans cette église, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, et puis je connais bien Bernard maintenant, je sais que lui n'est pas comme ça à vouloir formater les autres, même si des fois, moi aussi, on peut le faire malgré nous, mais il est dans une certaine liberté pour dire tu veux servir le Seigneur, bah, fais-le avec ce que tu as reçu. Et lui, Saül n'a pas compris. David, ok, tu veux y aller, mets ma panoplie à moi, mais ça ne marche pas. Tout ça pour dire que ce que tu as reçu, tu l'as reçu. Mais ce que tu n'as pas reçu personnellement, bah, tu ne l'as pas reçu personnellement et tu ne pourras jamais l'utiliser. Ce que moi j'ai reçu, vous ne l'avez pas reçu, et réciproquement, tout simplement. Et ce genre d'arme, ce genre de capacité, ça se reçoit dans une relation personnelle avec le Seigneur. On aura beau jouer au grand ministère intergalactique, on n'aura jamais la même onction parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses et parce que le Seigneur ne nous les a pas données. On peut s'inspirer, essayer de comprendre, mais les meilleures armes sont celles que j'ai vécues dans la prière, dans la difficulté, et que le Seigneur m'a donné. Et du coup, David, il a compris ça, et il ne peut pas porter les armes de Saül. Et du coup, il dit, non, je ne vais pas y aller avec mes armes, les armes de Saül, mais je vais y aller avec ce que moi j'ai reçu. Et quand on voit les armes de David, on aurait presque envie de rigoler. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arme qui, a priori, est adaptée pour faire la guerre. Ou faire la guerre du bac à sable, à la limite. Mais pas la guerre avec des professionnels qui font la guerre. Ce n'est pas une épée tranchante, ce n'est pas quelque chose qui est hyper dissuasif, c'est un truc tout bête qui n'a pas de valeur. Et pourtant, c'est ce que Dieu va utiliser et ce sont ses armes à lui. Ce que j'aimerais dire, c'est que des fois, ce qu'on a reçu, on a l'impression de dire « mais ça n'a pas de valeur, ce que j'ai reçu ». Et pourtant, c'est ce que Dieu t'a donné. Peut-être, des fois, on se croit insignifiant. J'aimerais tellement avoir l'arme de ce frère ou de cette sœur. J'aimerais tellement, quand je vois Nicolas chanter là, ce qu'il a reçu, je me dis, j'aimerais tellement chanter bien comme lui, c'est toujours juste. Et puis il a la sensibilité pour... Ah, mais ce qu'il a reçu, c'est lui qui l'a reçu pour lui. Moi, je n'ai pas reçu ça. Et des fois, je pourrais me dire, alors ce n'est pas le cas, rassurez-vous, oh, moi, je chante comme une gamelle sous la douche, etc. Et peut-être que tu regardes l'autre en te comparant, en disant, mais mon arme est ridicule. Pourquoi je n'ai pas un super glaive qui coupe? Pourquoi je n'ai pas un méga bouclier? Un truc comme ça qui fait vraiment, qui impressionne les autres. Pourquoi je n'ai pas l'aura de ce serviteur de Dieu? Pourquoi je ne prêche pas comme lui? Pourquoi je ne chante pas comme lui? Pourquoi moi, je n'ai pas la capacité de prier pour les malades et puis que les malades soient guéris aussi? Dites-vous bien qu'à chaque fois dans ces actions-là, c'est toujours Dieu qui agit. Il n'y a personne qui est trop bien pour accomplir le miracle. Dieu fait les miracles. Et peut-être que des fois, on se dit, mais mon arme, en fait, elle est inefficace parce que je la considère mal. David ne s'est pas dit, oh, moi c'est qu'un bâton, c'est qu'une fronde, hein. Oh, je fais bien pitié avec mon arme là. Non, c'est l'arme avec laquelle j'ai été victorieux. Ces armes-là m'ont déjà, d'une certaine manière, donné la possibilité de renverser les géants, les difficultés qui sont devant moi. Alors, je ne vais pas m'aventurer avec d'autres armes, c'est ces armes-là que je maîtrise. Je n'ai pas besoin de la nouvelle arme à la mode, je n'ai pas besoin de le truc qui est clinquant, qui est brillant, qui a du style. J'ai besoin de mon arme à moi. Alors, quelle est ton arme? Quelles sont les armes que tu as gagnées dans tes batailles? Peut-être des armes que tu considères toi comme étant insignifiantes, pas assez reluisantes, pas assez brillantes. C'est pourtant les armes que le Seigneur t'a données. Moi, j'ai, pendant longtemps, je vous disais, lutté avec ma perception de moi-même, me trouvant nul. Et puis même lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais l'impression que tout le monde était meilleur que moi. Et c'est pas faux, certainement. Et puis même dans l'art oratoire, j'avais l'impression de parler comme je parle, c'est-à-dire simplement, et des fois en faisant des fautes de français, de grammaire, etc. Et j'enviais tellement ceux qui s'exprimaient avec éloquence, et puis c'était devenu presque un complexe d'infériorité pour moi. Et puis jusqu'à un moment donné où j'ai réalisé ça. Je suis comme je suis. J'ai reçu ce que j'ai reçu. Je ne vais pas me complaire dans de là où j'en suis. Je me suis formé, j'ai fait tout un tas de choses et je vais continuer encore en essayant de m'améliorer pour la gloire de Dieu. Mais je suis ce que je suis, tout simplement, avec ce que j'ai reçu. Et j'ai bien conscience que tout ce qui peut se faire, tout ce qui s'est fait ces dernières années, au travers de l'action de mon ministère, du service de Dieu, ça a été fait simplement par moi, un simple homme, mais c'est Dieu qui a toujours fait. Il s'adresse à Pierre à un moment donné et lui dit « Tu es Pierre ». Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tout ce qui se fait dans l'église, dans notre église, c'est Jésus qui le fait. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est durable, tout ce qui impacte, c'est toujours Jésus qui le fait. Il le fait en utilisant l'un et l'autre, en fonction des armes qu'il a, des armes humbles, qui ne sont pas brillantes, qui ne vendent pas du rêve peut-être, mais c'est lui qui le fait. Et c'est pour ça que toute la gloire revient à lui, simplement. Les armes que David porte, et on termine par ça, et la suite, ça sera la semaine prochaine, reflètent son identité, reflètent qui il est, reflètent ce qu'il a reçu. Et David est l'homme selon le cœur de Dieu, et il est aussi, d'une certaine manière, très humble. L'humilité, on a des fois l'impression que c'est se mettre plus bas que terre et de dire « je ne suis rien, rien du tout », etc. Pour moi, ce n'est pas une bonne définition de l'humilité. Est-ce que l'humilité ne serait pas de reconnaître les choses telles qu'elles sont? Par exemple, pour nous, nous sommes pécheurs. Dites pas « amen ». Rachetés à un grand prix, qui avons besoin de la grâce de Dieu. Et en Christ, nous sommes justifiés. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Ça, c'est être humble. Mon compte d'humilité, quand nous croyons que c'est nous qui faisons les choses, quand c'est à cause de nous, mais nous ne recevons tout que par grâce. Et les armes de David, d'une certaine manière, reflètent son caractère et son humilité. Nous voulons voir des grandes choses, vivre ces choses nouvelles que Dieu en réserve pour nous. Nous verrons ces choses quand nous serons assez humbles, d'une certaine manière, pour laisser Dieu les accomplir en nous et au travers de nous. J'ai beaucoup de mal, je dois vous dire, aujourd'hui, avec... on va apprendre à se connaître, vous allez voir, des fois je suis un peu râleur, mais c'est normal, je suis français aussi. Vous priez pour moi, pour ma délivrance. Mais j'ai beaucoup de mal avec tout un tas de trucs qu'on peut voir sur Internet. Moi, j'appelle ça les serviteurs intergalactiques. On ne voit que, ils vont parler de la gloire de Dieu, mais sur les photos, on ne voit que, venez à la conférence, je vais vous donner les 7 points, les 7 étapes pour atteindre le miraculeux dans votre vie, et on les voit eux en photo. J'ai beaucoup de mal avec ce culte, d'une certaine manière, de la personnalité, où Jésus disparaît, et c'est le serviteur, qui d'une certaine manière, pour moi, n'est plus un serviteur, mais juste là pour se servir à lui, en tout cas dans les apparences. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. J'ai beaucoup de mal avec ce culte de la personnalité qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs. Via, je dirais, la progression de nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur nos photos de profil, on a tous des super sourires. On ne se prend jamais, évidemment, quand on a la gastro. Hein. On prend toujours un moment où on est super bien en valeur, où on a pris le temps de faire le sport, les abdos commencent à revenir un peu, etc. On est bien coiffé, etc. Le teint a allé après les vacances, et là, on se prend en photo. Et ça sera notre photo de profil pour toute l'année. Vous savez comment je le sais ? Parce que je fais pareil. Mais en tout cas, on est tous un peu dans cette illusion aujourd'hui du paraître. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je dis toujours, je disais ça souvent aux jeunes de l'église à Limoges, parce que évidemment, aujourd'hui, on a accès à toutes ces choses-là sur Internet, où des fois ça va dans un sens, des fois dans un autre. Mais qui va contrôler ce qui est dit à l'autre bout du monde, dans un autre pays ? Qui va vérifier dans la vie du gars qu'il dit si c'est vraiment la vérité ? L'avantage dans l'église locale, c'est que moi, vous me connaissez. On va apprendre à se connaître encore. Mais je vous dis des trucs, mais vous pouvez les vérifier chez moi, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous pouvez aller voir chez moi, gratter un peu. Et quand je vous dis que j'ai un sale caractère, vous pouvez aller vérifier si c'est vrai. Vous pouvez aller voir telle et telle chose. Et l'avantage de l'église locale, c'est que on se livre l'un à l'autre. Il n'y a pas du fake, d'une certaine manière. Il n'y a pas le culte de la personnalité. Le seul culte qu'on rend ici, c'est à Jésus, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Le culte de la personnalité, le culte de la performance, et on se retrouve un peu dans la mentalité de Saül. Il dit, ok, bah, si tu y vas, mets les belles armes, mets la belle armure, mets ce qui est brillant. Et aujourd'hui, vous demandez à des gens, quel est le critère pour définir si une église est une bonne église ? La plupart du temps, il vous dira, il faut qu'il y ait un bon prédicateur, il faut qu'il y ait un bon groupe de louanges, il faut qu'il y ait tout un tas d'activités, il faut que tout soit réglé au papier à musique, etc. Il faut qu'il y ait du monde. Ça, c'est le critère, bien souvent, des gens, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'est une bonne église. Moi, j'aimerais juste dire qu'une bonne église, c'est là où Jésus règne, mais en vrai. Où c'est lui qui est glorifié chaque dimanche et à chaque instant. Dans les propos qui sont dits, dans l'attitude que nous avons et dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est l'église selon le cœur de Dieu. Une église qui est toujours à chercher ce que Dieu veut faire, dans quelle direction il veut nous amener, qui sort de ses traditions ou de ses habitudes, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que chercher Dieu c'est de telle manière et qui se laisse peut-être questionner des fois sur sa foi ou sur sa manière de vivre les choses. Une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui est humble, qui sait se reconnaître pécheur, qui sait se reconnaître ayant besoin de la grâce de Dieu, mais qui laisse Christ, Jésus, bâtir l'église. Voilà l'église dans laquelle je me trouve. Amen. Voilà une église dans laquelle j'ai envie de vivre et dans laquelle nous allons aller plus loin encore. Nous allons, la semaine prochaine, voir la suite du thème. Ce sera « Le géant tombera », troisième partie. Bientôt, dans toutes vos salles de cinéma. Et nous verrons, nous étudierons, nous serons attentifs aux armes qu'a utilisées David. Et nous verrons que même dans cela, il y a une symbolique qui peut nous parler. Père éternel, merci pour ta parole. Parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est une lampe sur notre sentier. Et merci Seigneur parce que tu nous as racheté un grand prix. Merci Seigneur parce que nous sommes précieux pour toi. Et merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous ce que nous ne pouvions pas être, Père. Te louons, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants. Te louons d'avoir fait de nous des nouvelles créatures. Te louons, Seigneur, pour les victoires du passé, là où tu nous as utilisés, là où tu as fait ton œuvre, et toutes les armes que nous avons pu forger avec toi pendant ces moments. Ces armes que nous pouvons utiliser aussi aujourd'hui pour aller plus loin, pour renverser encore et encore les géants qui se dressent devant nous. Père, donne-nous de vivre cette perception de nous. Te demandons pardon pour toutes les fois où nous restons à vivre dans l'accusation, dans le fait de dire « c'est pas possible parce que les autres ont parlé » ou « parce que moi-même j'ai parlé », pour toutes les fois où nous mettons à mort la foi que nous devrions avoir dans ta parole, Père éternel. Dans cette semaine, Seigneur, dans ce temps, que ton esprit, Seigneur, nous mène dans cette réalité, que nous puissions réaliser qui nous sommes en toi, ce que tu veux que nous puissions être en toi, en tant que personnalité et aussi en tant qu'Église. Père, fais-nous cheminer, conduis-nous vraiment dans toutes tes destinées, dans tout ce que tu as préparé pour chacun de nous, Père. Te bénissons, Seigneur, pour cette Église, pour cette communauté dans laquelle nous sommes. Te bénis pour chaque frère, chaque sœur qui est là, qui est précieux, qui est important, à qui tu as donné des armes, peut-être des armes d'un point de vue humain, d'un regard humain qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas flamboyantes ou je ne sais quoi encore, mais des armes précieuses en toi, Père. Que chacun, Seigneur, avec ce qu'il a reçu, puisse se lever, renverser les géants et te servir, Père. C'est notre prière à chacun. Père, nous te donnons toute la gloire, te donnons tout l'honneur. Prions en ton nom, Jésus. Amen. Terminer ce culte, simplement prendre un temps dans la louange, dans la prière, pendant que le groupe de louange, avec les armes qu'ils ont reçues, chacun, armes acquises, à travers des difficultés, à travers de temps, puisse servir l'Église aussi. Puissiez vous lever si vous avez encore un peu d'énergie, simplement louer le Seigneur, et remettant ce temps, en remettant ce qui a été partagé ce matin, en livrant vos cœurs, en disant ce que vous voulez au Seigneur, c'est votre relation à vous avec le Seigneur, c'est pas la mienne. Simplement exprimez vos vies au Seigneur et puis nous nous séparons.
Il m'a libéré, ma tête est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis ami. Qui suis-je pour que le roi tu m'as trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis un. Yeah.
suis choisi et affranchi. Pour toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis.
Accompagner chacun dans ta paix et utilise-nous en fonction de ta volonté, Père. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous souhaite un bon dimanche.